Merci d'écouter RFI, les 9h à Paris, 8h temps universel. Dans 10 minutes, on se retrouve pour parler du Togo. Après les législatives d'avril, le parti présidentiel vient de remporter les premières sénatoriales de l'histoire du pays. Dernière étape avant la mise en œuvre d'un régime parlementaire. Qu'en pensez-vous? On vous attend au 33 9 693 693 70. Mais ça, c'est dans 10 minutes. Tout de suite, le journal Marion Cazanov. Bonjour Marion.
Bonjour Chantal, bonjour à tous. À la une, le ballet diplomatique en Arabie Saoudite, sa capitale, accueille cette semaine des diplomates et dirigeants du monde entier pour discuter de sujets brûlants, la guerre en Ukraine et la situation à Gaza. L'armée israélienne devait se retirer du sud du Liban aujourd'hui dans le cadre de la trêve Israël-Hezbollah, mais elle maintient des troupes dans des endroits stratégiques. La situation dans l'est de la RDC, la Cour pénale internationale tente de recueillir des preuves de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et puis vous venez de le vivre sur RFI, l'annonce du prix Découverte RFI attribué cette année à la chanteuse guinéenne Queen Rima. Riyad, capitale de la diplomatie cette semaine. La capitale saoudienne reçoit des dirigeants et diplomates du monde entier. D'abord, aujourd'hui, avec des pourparlers entre les États-Unis et la Russie, ils viennent de débuter. Officiellement, il sera question de normalisation des relations entre les deux pays. Mais la guerre en Ukraine devrait aussi s'inviter dans ces discussions. Le président ukrainien, lui, devrait arriver demain à Riyad pour s'entretenir avec le prince héritier avant vendredi une réunion de pays arabes. Cette fois sur l'avenir de Gaza, l'Arabie Saoudite renforce ainsi son aura diplomatique, Joseph Clément.
Qu'est-ce que peut bien espérer l'Arabie Saoudite en s'impliquant dans le règlement d'un conflit qui ne la concerne pas directement? Et pourtant, c'est après avoir serré les mains du prince Faisal, le ministre saoudien des Affaires étrangères, que Marc Rubio et Sergueï Lavrov entameront leur discussion. Une occasion en or pour l'Arabie Saoudite d'occuper un rôle central, celui d'intermédiaire entre deux dirigeants qu'elle connaît bien. Déjà en 2016, Donald Trump vantait la relation spéciale nouée avec le prince héritier Mohamed Ben Salman. Tout le monde se souvient de Vladimir Poutine tapant dans la main de MBS, alors que le G20 de Buenos Aires s'employait à éviter le prince à la suite de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Le volontarisme de la diplomatie saoudienne a toutefois ses limites. Sur le dossier de Gaza, le royaume refuse catégoriquement le transfert des Palestiniens en Égypte et en Jordanie, malgré la volonté du président américain. Mais les Saoudiens n'ont pas peur de la contradiction, l'intérêt est ailleurs. Que les discussions sur l'Ukraine échouent ou non aujourd'hui, on se souviendra toujours qu'elles ont eu lieu en Arabie Saoudite. Joseph Clément, Riyad, RFI.
C'est pour parler entre les États-Unis et la Russie à Riyad. Se font sans l'Ukraine, sans les Européens aussi, de plus en plus mis à l'écart sur le dossier ukrainien. Certains dirigeants des 27 se sont retrouvés en urgence hier à Paris. Il a été question d'un envoi de troupes de maintien de la paix, ce que Washington refuse toujours. Mais un éventuel soutien logistique américain reste possible, Franck Alexandre.
Donald Trump l'a toujours dit, la présence de soldats américains en Ukraine est exclue. Quant à la mise en œuvre des garanties d'un plan de paix, c'est l'affaire des Européens. La priorité de Washington n'est pas l'Europe face à la Russie, c'est l'Indo-Pacifique et la Chine. Mais ce recentrage n'est pas nécessairement le reflet d'un désengagement total, car l'Europe reste un bon client de l'industrie militaire américaine. Il y aura donc à minima, souligne Jean-Christophe Noël, chercheur à l'IFRI, un soutien logistique américain à une intervention européenne en Ukraine.
Il y a énormément de pays européens, dont notamment la logistique dépend des Américains. Si les Américains ne veulent pas intervenir directement, ils seront présents, ne serait-ce que pour assurer la logistique des moyens qu'ils ont vendus à ces pays européens. Les Américains devraient aussi être présents pour assurer certains matériels, en tout cas qui sont assez rares, qu'eux possèdent en nombre et qui sont essentiels pour les opérations aujourd'hui. Par exemple, si on parle de tout ce qui est aviation, des ravitailleurs ou des AWACS, etc. Donc, il y en a en Europe. Il est évident que si les Américains donnaient un petit coup de main, ça permettrait de mieux répartir l'effort. En fonction des conséquences militaires de telle position, ça serait une décision qui serait éminemment politique.
L'enjeu pour les Européens est donc de pouvoir se coordonner avec les États-Unis pour espérer jouer un rôle dans le maintien d'une éventuelle paix en Ukraine.
Franck Alexandre, une nouvelle étape dans l'accord de trêve entre Israël et le Hezbollah. L'armée israélienne a retiré ses troupes du sud du Liban, mais elle ne respecte pas tout à fait ses engagements puisqu'elle maintient des soldats dans 5 points stratégiques de la région. Oriane Verdier.
Le porte-parole de l'armée israélienne affirme que les forces libanaises ne sont pas en mesure d'assurer la sécurité dans le sud du Liban et surtout d'éviter une résurgence du Hezbollah à la frontière. Un petit nombre de soldats israéliens déployés sur 5 points stratégiques du côté libanais de cette frontière resteront donc en poste dans le but de protéger la population israélienne de la menace du Hezbollah, a annoncé hier le porte-parole de l'armée israélienne. Il affirme que cette décision a été prise en accord avec le comité en charge de faire appliquer le cessez-le-feu. Le comité est dirigé par les États-Unis. Nous sommes en échange constant avec eux, développe-t-il. De son côté, le président libanais a appelé hier les pays garants de la trêve de sommer Israël de retirer toutes ses troupes et de libérer les prisonniers comme le prévoyait l'accord. L'armée israélienne mène quotidiennement des opérations de dynamitage de bâtiments à la frontière et des frappes à travers tout le pays. Selon l'ONG Human Rights Watch, la démolition délibérée par Israël de maisons et d'infrastructures civiles rend impossible le retour pour de nombreux habitants dans les zones frontalières.
Israël, qui travaille déjà sur le plan de Donald Trump, le président américain, a proposé il y a quelques jours de déplacer les Palestiniens de Gaza vers l'Égypte ou la Jordanie. Israël vient de créer pour cela une agence spéciale. Dans l'est de la RDC, à présent, un calme relatif à Bukavu, la capitale du Sud Kivu, prise par les rebelles du M23 le week-end dernier. Selon des acteurs de la société civile, les activités reprennent peu à peu. La Cour pénale internationale, elle, continue de recueillir des témoignages, des preuves sur d'éventuels crimes contre l'humanité et crimes de guerre dans l'est de la RDC. La société civile se mobilise pour fournir ses preuves à la CPI. C'est le cas de l'association des victimes du Congo, la NVC, dirigée par Mirande Mulumba.
L'association nationale des victimes au Congo s'est livrée à cet exercice de pouvoir documenter, certifier les différents incidents qui ont caractérisé ces violations systématiques des droits de l'homme. Au travers nos antennes implantées sur place, il était plus qu'impérieux dans les temps voisins de la commission de toutes ces exactions de pouvoir collecter notamment les images, non seulement les images, mais les témoignages patents de certaines victimes, soit directes et indirectes, photographies, tueries massives de population, les viols systématiques de femmes et toutes ces exactions perpétrées dans le nord Kivu et dans le sud Kivu avec l'entrée du mouvement M23 et AFC de M. Corné Nanga et constituer un paquet en termes de preuves pour devoir fournir tous ces éléments importants au bureau du procureur. Voilà pourquoi nous implorons le bureau du procureur de passer à la vitesse supérieure. Les victimes de l'armement du Congo étant déjà victimes de juridiction congolaise, ne voudront pas encore une fois de plus être victimes de la prestation du bureau du procureur.
Mirande Mulumba de la NVC. RFI, 9h08 à Paris, 8h08 en temps universel. Au Brésil, la ville de Rio suffoque sous une importante canicule à l'approche du carnaval. Les 40 degrés sont largement dépassés ces derniers jours et l'été pourrait être l'un des plus chauds enregistrés dans la ville. On reste au Brésil avec cette vidéo qui fait le tour des réseaux, celle d'un jeune autochtone d'Amazonie qui a eu un premier contact avec le monde extérieur. 24 heures plus tard, il est retourné dans la forêt pour rejoindre sa communauté. Sarah Cozzolino nous raconte cette brève rencontre.
Les vidéos de cette rencontre ont fait le tour du pays. On y voit un jeune indigène pieds nus et vêtu d'un petit pagne tressé qui tente de communiquer. Il porte 2 bûches sous les bras et c'est la raison pour laquelle ses interlocuteurs ont pensé qu'il cherchait à allumer un feu. Les habitants de la communauté qui vit sur les bords de la rivière Purus le filment et lui montrent comment se servir d'un briquet. Il y a quelques échanges de rires. Les spécialistes ne sont pas encore parvenus à identifier son ethnie ni sa langue. Le jeune a ensuite été pris en charge par la FUNAI, l'institution de protection des peuples indigènes. Il s'agissait de vérifier qu'il n'avait pas été contaminé avant de retourner dans sa communauté. Car dans cette région, un grand nombre d'activités illégales de pêche et d'exploitation de bois pourraient contaminer les peuples alentours. C'est le jeune indigène qui est à l'origine de cette rencontre, un cas extrêmement rare, car depuis 1987, le Brésil suit une politique de non-contact avec les peuples isolés afin de préserver leur culture et leur mode de vie. Au Brésil, 114 peuples isolés ont été recensés, majoritairement en Amazonie. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Et puis la troisième, c'est la bonne. L'adage se vérifie une nouvelle fois parce qu'à sa troisième participation, Queen Rima a remporté le prix Découverte RFI. Vous venez de suivre cette annonce dans RFI Matin, la réaction de la chanteuse guinéenne, lauréate avec son style dancehall, reggaeton. Son portrait est à retrouver sur notre site rfi.fr. 9h10 à Paris, 8h10 en temps universel. Je vous laisse en compagnie de Chantal Laureau dans Appel sur l'actualité.
Merci beaucoup, c'était le journal de Marion Cazanove.